Bienvenidos a este informativo de Radio
Live with me. Today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonjour et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilac. Sachant que le gouvernement chinois accentue la censure avant le 30e anniversaire du soulèvement de Tiananmen. Liu Hang, de la rédaction vietnamienne.
Si, ciao.
Car le gouvernement travaille sur une loi sur la cybersécurité. Et puis Asbel Lopez, de la rédaction en espagnol.
Hola.
Pour la décision de l'Équateur de retirer le statut de réfugié à Julian Assange, ce qui a permis son arrestation. Bonsoir à vous tous. Avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir la victoire électorale de Benjamin Netanyahou, qui devrait donc diriger pour la cinquième fois le gouvernement israélien. Alors cette semaine, à la rédaction en espagnol de Radio France Internationale, vous avez trouvé un moyen particulier, Asbel, pour expliquer la relation que le Premier ministre entretient avec ses concitoyens. Alors, il s'agit des femmes battues qui n'arrivent pas à se séparer de leur mari violent. Ça demande une explication.
C'est un politologue de l'université hébraïque de Jérusalem, Ari Kassowitz, qui nous a interviewé. Il a utilisé cette image pour nous expliquer l'étroite relation qu'il existe actuellement entre Netanyahou et une partie de la société israélienne. C'est une relation d'amour-haine, comme il arrive parfois dans certains feuilletons brésiliens ou télénovelles.
Netanyahu no tiene reemplazo. Que a veces aquí se usa la metáfora como el caso de la...
Alors, qu'explique ce politologue?
En d'autres termes, même si Netanyahou leur fait du mal, les Israéliens reviennent toujours vers lui. Pour l'instant, ils ne voient personne d'autre comme Premier ministre. Pour beaucoup d'Israéliens, il n'y a que Netanyahou qui peut être aux commandes. En espagnol, nous disons « mejor malo conocido que bueno por conocer », c'est-à-dire le démon que tu connais veut mieux que celui que tu ne connais pas.
Mais comment expliquer cet attachement à Netanyahou après tant d'années au pouvoir et surtout plusieurs scandales de corruption dans lesquels il est empêtré.
Selon ce professeur, Netanyahou n'est pas un homme d'État, un visionnaire, mais plutôt un politicien très habile, même génial. Il est si bon que ses électeurs s'en fichent s'il est honnête ou malhonnête. Ils ne tiennent pas compte du résultat des poursuites judiciaires dont 3 voire 4 affaires de corruption. Son électorat est solide. Ils reconnaissent en lui le faucon qui a su faire d'Israël un État fort avec plus de sécurité. Ils vantent aussi ses succès dans la scène internationale. Il y a quelques jours, Netanyahou s'est rendu à Moscou pour s'entretenir avec Poutine. Il a rencontré aussi récemment Trump et Bolsonaro, président de 2 puissances de l'Amérique.
Trump, justement, nous allons en parler. Donald Trump a été un des premiers chefs d'État à avoir félicité Netanyahou. Asbel, expliquez-nous pour quelles raisons.
Trump n'est pas perçu de la même manière en Amérique latine qu'en Israël, nous expliquait le professeur Kassowitz. Trump est plutôt bien perçu par beaucoup d'Israéliens, surtout après la décision du transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, inaugurée il y a un an. Mais aussi la reconnaissance de l'annexion du Golan. Ces deux gestes d'une immense portée symbolique ont contribué à redorer le blason de Netanyahou. En ce sens, Trump a été le plus grand allié de Netanyahou pour cette élection. Et si Trump aussi est réélu en 2020, nous aurons encore ces deux dirigeants pour longtemps.
Hermine Roumilac, Donald Trump qui a aidé le gouvernement israélien tant sur le plan politique, on vient de le voir, que sur le plan économique.
Oui, en fait, comme dans l'affaire, il n'y a pas d'amis. En pleine guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Tel Aviv a accru ses collaborations avec Pékin dans tous les domaines, y compris la très controversée nouvelle route de la soie lancée par le président Xi Jinping. En fait, ce projet consiste à exporter ces extraits de productivité et pour répandre aussi dans le monde entier les influences de la Chine. Et d'ailleurs, M. Netanyahou a déclaré pendant sa visite en Chine en 2017 que son pays aidera le projet de la nouvelle route de la soie là où la Chine aura besoin.
Alors, est-ce que la Chine s'est réjouie de la réélection de Bibi, comme le surnomment les Israéliens?
Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle, mais le contraire serait très étonnant, n'est-ce pas? Et parce que pour la Chine, l'Israël occupe une place clé très stratégique au Proche-Orient. C'est un pays stable, riche, puissant, surtout très en avance dans les domaines de technologies nouvelles dont la Chine a tant besoin. Malgré la mise en garde de Washington pour le danger de vol de propriété propriété intellectuelle par les entreprises chinoises. Bibi, comme vous dites, encourage sans cesse les collaborations des entreprises israéliennes avec la Chine.
Alors justement, si l'on en croit des statistiques de 2016, hein, ce sont les plus récentes à disposition, les investissements directs venant de la Chine ont doublé.
Oui, pour atteindre 16 milliards de dollars en 2016. Et ça, c'est selon les estimations de la presse israélienne. Pékin détrônera bientôt Washington, si ce n'est pas déjà fait, la place du premier investisseur étranger en Israël. En contrepartie, l'État hébreu espère obtenir le billet d'entrée de l'immense marché chinois, voire le marché asiatique à long terme. Autrement dit, l'Israël espère que ce soit un commerce gagnant-gagnant, comme on dit souvent dans le business.
Et le Vietnam, avec vous, Lê Thu Hang, intéressons-nous à la perception de ces élections législatives au Vietnam, justement.
Oui, bien sûr que oui, parce que l'Israël devient l'un des partenaires principaux du Vietnam en Moyen-Orient après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1993. Et les élections législatives dans cet État hébreu ont bien sûr attiré beaucoup d'attention des dirigeants vietnamiens. Il s'agit des élections législatives les plus extraordinaires, d'après M. Chen Duc-mo, un ancien ambassadeur vietnam en Israël. Et face à un rival de taille, Benny Gantz, le premier ministre Netanyahou a su jouer la carte de sécurité nationale pour l'emporter aux élections. Et avec un seul siège d'écart en faveur du parti Likoud au pouvoir, ce résultat montre la division profonde dans la vie politique et dans la société israélienne, d'après cet ambassadeur.
Autre chose ?
Oui. Alors, le deuxième point qu'il a remarqué, c'est que le processus de paix avec la Palestine reste encore fragile sous le nouveau mandat de Netanyahou, et ce dernier a promis d'annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie, alors que 42% de la population israélienne y est favorable. Il semble que le Premier ministre Netanyahou cherche aussi à profiter du soutien inlassable de Donald Trump pour imposer ses faits accomplis, tout en sachant que l'Israël ne recevrait pas les mêmes soutiens si les Américains votent pour un autre président.
Alors, puisqu'on parle de relations diplomatiques, qu'est-ce que ça donne entre Israël et le Vietnam ? Comment est-ce qu'elles ont évolué, ces relations ?
Alors, le Vietnam a soutenu la Palestine pendant les années 1960 et 1970 parce que l'Israël était un allié des États-Unis à l'époque, comme aujourd'hui. Mais la situation a évolué pendant les années 1910. L'Israël a ouvert son ambassade à Hanoï dès 1993. Et quant au Vietnam, son premier ambassadeur à Tel Aviv n'a pris ses fonctions qu'en 2009. Israël et le Vietnam ont poursuivi plusieurs programmes de coopération dans de différents domaines économiques, agricole, de défense, de nouvelles technologies, etc. Et le Vietnam a acheté beaucoup d'armes israéliennes aussi. Et sur le plan de l'environnement, l'Israël a aidé la ville de Hanoï, la capitale, à tester la qualité de l'air, le niveau de pollution pour avoir des mesures adéquates.
Voilà pour les regards croisés de RFI, d'Accent du Monde, sur la vie politique en Israël.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Vous le savez, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a été arrêté jeudi à l'ambassade de l'Équateur à Londres et sorti manu militari par la police britannique du bureau où il habitait depuis 2012. C'est un président équatorien qui lui avait accordé l'asile, Rafael Correa, et c'en est un autre, Lénine Moreno, qui vient de lever cette mesure de protection. Pourquoi un pareil changement de position, Asbel Lopez ?
Car beaucoup de choses ont changé en 7 ans. En 2012, le président était justement Rafael Correa. Il estimait qu'Assange était un symbole de la persécution contre la liberté d'expression, ainsi qu'un atout pour les gouvernements progressistes d'extrême gauche. Il le reste d'ailleurs, le gouvernement vénézuélien a qualifié l'arrestation d'Assange d'atroce. La Bolivie a dénoncé pour sa part une atteinte à la liberté d'expression.
En revanche, l'actuel président équatorien, donc Lénine Moreno, est sévère à l'endroit de Julian Assange, qu'il qualifie de hacker misérable. Pourquoi Assange est-il tombé si bas dans l'estime de Quito en quelques mois seulement ?
Son comportement a profondément agacé le président Moreno, car loin de se montrer discret, Assange s'est prononcé sur les élections aux États-Unis en 2016 et le processus d'indépendance de la Catalogne en 2017. Son pays hôte était aussi la cible de son militantisme. Le ministre ministre équatorien des Relations extérieures, José Valencia, a listé les 9 raisons pour lesquelles l'Équateur a décidé de lever l'asile diplomatique à Julian Assange.
Tercero, el señor Assange, sus abogados y asociados han proferido amenazas y acusaciones insultantes.
Alors, qu'est-ce qui pose problème?
Il parle de la troisième raison, ce sont les accusations d'Assange contre l'Équateur, en particulier que ce petit pays avait cédé aux pressions des États-Unis. Le chef de la diplomatie équatorienne affirme ici qu'accuser l'Équateur de céder aux pressions des pays étrangers est non seulement faux, mais aussi une insulte et une infamie. Quito a sorti aussi la calculette pour faire les comptes de ce qui avait coûté aux contribuables équatoriens les 7 ans d'asile d'Assange à leur ambassade, un peu plus de 6 millions de dollars pour sa sécurité et son quotidien.
Et puis le président équatorien a critiqué également le comportement d'Assange vis-à-vis du personnel qui s'occupait de lui à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il dit exactement?
Qu'il était impoli et agressif et qu'il avait manqué de respect au personnel. Nous sommes tolérants, dociles, mais pas stupides, a précisé le président Moreno. Cela étant dit, selon des informations de presse, ce qui aurait mis le feu aux poudres, c'est autre chose, à savoir des soupçons de Quito sur un possible piratage des communications du président Moreno ainsi que de ses proches par Wikileaks. Rappelons aussi pour finir que Correa et Moreno, anciens alliés, sont devenus des ennemis depuis l'arrivée de Moreno au pouvoir en mai 2017. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre, et non seulement sur le cas Assange, mais aussi sur beaucoup d'autres dossiers. Moreno ne cache pas son intention de descorreïsar l'Équateur, c'est-à-dire effacer l'héritage de l'ex-président Correa, qui était un proche de Chavez. Le cas Assange fait partie aussi de cette politique.
Et sachez aussi que ce que dit Rafael Correa, qui avait donc accordé l'asile politique à Julian Assange, est à retrouver sur l'antenne de nos confrères de France 24. Au Vietnam, la loi de cybersécurité adoptée en juin dernier par l'Assemblée nationale est entrée en vigueur le 1er janvier. Plusieurs organisations des droits de l'homme, comme Human Rights Watch, mais également Reporters sans frontières, s'en inquiètent. Pour quelles raisons, Lê Thu Hằng?
Alors, il faut dire que la liberté d'expression au Vietnam a déjà été limitée à partir de 2016. Et d'après des défenseurs, la nouvelle loi relative à la cybersécurité, qui est censée déjouer les cyberattaques, donne en réalité aux autorités des pouvoirs très étendus et le moyen de surveiller Internet. Et par exemple, le texte contraint les entreprises à Internet à retirer sous 24 heures les contenus inappropriés, menaçant à la sécurité nationale, les diffamations contre les autorités, les organismes ou bien l'incitation à la violence, etc. Et à part l'obligation d'ouverture du bureau au Vietnam, ces entreprises, pour la plupart étrangères, doivent d'ailleurs fournir aux autorités vietnamiennes l'identité des propriétaires des comptes dits suspects. Et le public vietnamien et plusieurs organisations considèrent que la nouvelle loi relative à la cybersécurité comme un modèle autoritaire visant à surveiller, contrôler, traquer, fermer tous les comptes jugés hostiles et réactionnaires.
Alors cette loi est donc officiellement entrée en vigueur début de l'année, mais elle n'est pas encore appliquée car il n'y a toujours pas, c'est comme en France finalement, de décret d'application.
Voilà, le ministère de la Sécurité intérieure du Vietnam a proposé un premier projet de décret d'application de la loi sur la cybersécurité dès la fin de l'année de 2018, après 2 mois de consultation auprès de la population. Mais pourtant, ce projet de décret a été contesté, et notamment par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté d'expression. C'est aussi un obstacle à la ratification au Parlement européen de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Vietnam. Et un deuxième projet de décret est en cours et l'Union européenne a demandé au Vietnam le droit de le consulter.
Alors, comment ont réagi les Vietnamiens?
Alors, sur cette question, nous avons posé, à demander l'avis d'un avocat qui s'appelle Hoàng Cao Sang à Saigon. Écoutons-le.
Thì cũng có rất là nhiều quan điểm phản ứng về
dites-nous en plus sur son point de vue.
Alors, il a dit qu'on conteste beaucoup de contestations après l'entrée en vigueur de la loi sur la cybersécurité qui réglemente l'expression des positions personnelles des organisations et évidemment la responsabilité des entreprises à Internet. Et d'après lui, cette loi affectera les investissements étrangers, le commerce et le processus d'intégration mondiale du Vietnam. Et la loi est entrée en vigueur, mais il n'y a pas encore de décret d'application. Donc, à ses connaissances, comme la nouvelle loi provoque des problèmes de contestation, les autorités n'ont toujours pas pu promulguer un décret expliquant les modalités d'application.
Merci beaucoup, Lê Thu Hằng de la rédaction vietnamienne de RFI. Bien évidemment, vous surveillez l'évolution de cette situation de très près pour nous. Dans quelques semaines sera commémoré les 30 ans du soulèvement de ce qui s'est passé à place Tiananmen. Un chanteur chinois vient d'être interdit de tourner. Alors quel est le rapport, Hermine Roumilhac? Qui est-il? Que chante-t-il?
En fait, avant de répondre à votre question, je voudrais juste vous rappeler que l'événement de place Tiananmen qui est en question est toujours considéré par le gouvernement chinois comme une émeute menée par des gens qui voulaient semer le chaos en Chine. Donc, sa répression sanglante a aussi stoppé net d'une manière dramatique quelques voies réformatrices au sein du régime communiste il y a 30 ans.
Alors, et ce chanteur,
on revient à ce chanteur qui s'appelle Li Zhi. Il était peu connu du grand public juste avant son interdiction. La semaine dernière, la nouvelle de l'interdiction de ses 23 concerts a suscité beaucoup de curiosité sur lui et de ses chansons. En fait, dans la communauté des communiqués des autorités, son nom n'est pas clairement cité. Et la raison de l'annulation était due, je cite, au mauvais comportement du chanteur. Mais rapidement, l'identité du chanteur est révélée. Donc, on a retrouvé aussi quelques-unes de ses anciennes chansons qui ont évoqué l'événement du place Tiananmen et aussi la privation de la liberté des Chinois qui explique mieux son interdiction de tourner.
On en écoute un extrait?
Oui.
Le titre de cette chanson?
Le titre de cette chanson, justement, c'est La Place, comme la place Tiananmen.
Alors, que disent les paroles?
Les paroles disent « Aujourd'hui, cette place est ma tombe. Cette chanson est pour ta mémoire. Tu seras éduqué pour être mauvais, comme un animal qui ne vient pas en aide des autres, qui ne sait que manger et faire ses besoins. Ne crois pas à son amour, l'aube n'est pas encore arrivée. Ne crois pas à son affection, son pistolet est pointé sur ta poitrine. » En fait, si on écoute bien, on entend dans la musique le rafle des tirs de Kalachnikov, si on écoute bien.
Mais c'est des archives.
Oui, après, à la fin, on a entendu aussi les voix des gens qui criaient « Appelle une ambulance !» En fait, ça vient probablement d'un archive, d'un documentaire de l'époque de place Tiananmen, en fait, mais on ne sait pas la source précise. Et dans la même chanson, un peu plus loin, j'ai envie de vous faire écouter un autre extrait aussi.
Hermine?
C'est la voix du chanteur, il imite peut-être un officier, il dit « Tuez-le, éliminez-le, donnez encore un coup de couteau, tirez, éliminez, qu'est-ce que vous croyez encore ?» Donc l'autre chanteur, voilà,
oui.
On écoute encore un morceau.
Encore une autre?
Oui, non pas l'autre.
En tout cas, celui qu'on a globalement, quels sont les... Quel est le propos donc de ce chanteur?
Le propos de ce chanteur, en fait, celle que on a entendu, c'est très clairement indiqué le massacre de place Tiananmen, en fait, le tir, les pistolets, le couteau, tout ça. Et la chanson qu'on a écoutée au début, ça s'appelle « Le peuple n'a pas besoin de liberté », en fait. Un extrait qui dit « Le peuple n'a pas besoin de liberté, c'est la meilleure époque maintenant ». Et comme pour répondre à cette question, on apprend aujourd'hui que dans la nouvelle version dictionnaire chinois, le mot « liberté » a été supprimé.
Alors, ça, c'est une censure de chansons. Il y a des censures concernant les intellectuels. De quoi s'agit-il?
Il y a plusieurs faits inquiétants. En fait, le professeur Xu Zhangjue de l'université le plus renommée de Chine, de l'université Tsinghua, a été privé de son travail. En fait, si on cherche bien, en fait, il a écrit des articles qui critiquent le président chinois. Donc, ça n'a pas plu au gouvernement. En plus, il y a plusieurs professeurs à l'université qui ont été licenciés ou alors mutés de leur poste parce qu'il y a des élèves qui ont dénoncé ce qu'ils ont dit en classe, ces propos qui critiquent le président. président Xi Jinping très souvent.
Et tout cela donc il y a quelques semaines, ce sera 4 juin, les 30 ans du massacre de la place Tiananmen. Merci à Rémine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.